Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
En Afrique, la responsabilité sociétale des entreprises n'est plus un simple concept importé. Elle devient un levier stratégique, un moteur d'inclusion, d'innovation et de croissance durable. Des industries extractives aux géants du numérique, des PME locales aux multinationales, les entreprises redessinent leur rôle dans la société entre promesses, impacts concrets et zones d'ombre. La RSE s'impose donc désormais comme un baromètre incontournable du développement économique et social du continent et au-delà. Et pour en savoir plus, mesdames et messieurs, aujourd'hui, sur l'impact RSE en Afrique et au-delà, nous recevons Madame Inès Semen, chef d'entreprise EcoISIS et également experte en transition écologique et de la responsabilité sociétale en Afrique et en Europe. Bonjour à vous et merci également aujourd'hui de nous servir de guide.
Bonjour.
Alors Madame Semen, sans plus tarder, comment définir concrètement la RSE dans le contexte africain où les besoins sociaux et environnementaux peuvent être plus urgents qu'ailleurs?
Déjà, il faut dire qu'en Afrique, la responsabilité sociétale ne peut pas être une simple déclaration ou un rapport. Elle doit être pratique, visible, territoriale et orientée vers les besoins immédiats des populations. Mmh. Pour ce fait, donc, je donnerai comme définition de la RSE en Afrique en la matière, dont les entreprises contribueraient directement à améliorer la vie des populations et à protéger son environnement en répondant aux besoins réels du territoire, c'est-à-dire l'emploi, l'éducation, l'assainissement, l'accès à l'eau potable, le climat et tout. Je vais même plus loin pour l'imager.
Tout à fait.
Par la métaphore de la tête qui serait pour penser juste, parce qu'elle doit être structurée et avoir une vision stratégique alignée avec les priorités nationales. Et le cœur, pour agir avec sens, parce qu'elle placerait la communauté au centre et la solidarité au centre de chaque action. Et le corps pour transformer ces territoires-là, parce qu'elle doit se traduire par des projets concrets à améliorer réellement la vie des populations. Là, vous avez parlé de spécificité. Donc, en Afrique, la RSE africaine, effectivement, elle est spécifique parce que les défis sont plus urgents, effectivement. Et ces défis-là devraient s'appuyer sur 4 piliers concrets pour pouvoir avoir une RSE réaliste réellement en Afrique. Donc, les 4 piliers, on pourrait en citer, entre autres, une RSE qui serait centrée sur la communauté. Moi, j'existe beaucoup sur la communauté parce que je suis
tout à fait
présidente d'une ONG. Donc, une RSE centrée sur la communauté, c'est-à-dire l'entreprise est perçue comme acteur social et elle doit contribuer à l'école, à la santé, aux infrastructures. Une RSE territorialisée, c'est-à-dire chaque région a ses défis. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, Abidjan, on a le défi du sud qui serait les déchets, les inondations. Et au nord, on aurait la sécheresse, le manque d'emploi et dans les zones rurales, le manque d'éducation et l'agriculture durable. Ici, donc, on aurait une RSE qui devrait pouvoir répondre aux besoins du territoire, pas aux standards copiés. Du coup, comme troisième pilier, on a une RSE orientée vers des actions mesurables. C'est-à-dire la RSE africaine, elle se voit, elle se mesure, elle se ressent. Et comme quatrième pilier, c'est une RSE qui doit créer des opportunités. Donc la RSE devient un moteur de création d'emplois et de développement. Donc les bénéfices seraient pour la communauté et c'est aussi après pour l'entreprise.
Et c'est assez clair, bien évidemment. J'adore déjà cet exemple du cœur, donc également qui un peu transpose et éclaircit sur ce concept RSE. Et justement, Madame Semen, les entreprises en Afrique investissent-elles par conviction plutôt ou par pression réglementaire et réputationnelle, selon vous?
Moi, je dirais les deux. Je dirais les deux. En premier lieu, on va dire par conviction, surtout dans les secteurs à fort ancrage communautaire. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises africaines s'engagent parce qu'elles savent que leur légitimité dépend plus de la communauté. Quand on prend le cas des mines, bon, la RSE déjà est vue comme un investissement stratégique au niveau des mines. Donc, il n'y a pas de RSE sans l'approbation déjà des communautés. Secondo, il y a la pression réglementaire, mais ce phénomène-là n'est pas trop croissant en Afrique. Elle est encore limitée. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, on voit ça un peu émergeant au niveau du Nigeria, en Afrique du Sud, au Maroc, en Côte d'Ivoire bientôt peut-être. Mais la contrainte réglementaire reste vraiment faible, contrairement à l'Europe ici. Et cette contrainte-là, certes, elle est un peu poussée par des institutions publiques, internationaux, par les normes sectorielles quand on prend le cas des mines, et par des appels d'offres aussi qui exigent des critères peut-être RSE. Mais la forte pression se situe plus au niveau de la réputation. Là, la pression réputationnelle est un levier très fort pour les grandes entreprises.
Tout à fait.
Ces entreprises-là craignent plus les conflits communautaires, les scandales environnementaux, la perte des marchés. Ici, la pression, elle est plus réputationnelle et bien plus forte que la pression légale, je dirais.
Tout à fait. Et aujourd'hui aussi, quels sont les secteurs, selon vous, les plus avancés en matière de RSE sur le continent et pourquoi ?
Bon, en Afrique, bon, je vais parler avec beaucoup de pincettes parce que je suis en Europe.
Gentil.
Bon, je vais dire peut-être que les secteurs les plus avancés en Afrique sont ceux qui sont à la fois très exposés aux impacts socio-environnementaux et très connectés aux marchés internationaux. Donc, le cas des mines, le cas de l'agro-industrie, les télécoms peut-être après et les finances viendraient. Donc, je dis pourquoi. Pourquoi les mines? Les mines doivent être, en principe, si je ne me trompe, leaders en matière de RSE. Mmh. La mine avance en RSE parce qu'elle n'a pas le choix. Sans, comme je le disais plus haut, sans communauté, il n'y a pas d'activité. Elles ont la forte pression internationale avec les normes, les certifications. Et puis, il y a l'impact direct sur l'environnement. On a également la nécessité d'acceptation sociale des communautés. C'est donc un secteur vraiment sous surveillance internationale. Après, on va parler en deuxième position de l'agro-industrie, qui est un peu très avancée aussi sur la traçabilité. C'est un secteur vraiment sous surveillance internationale avec les exigences déjà du client et la lutte contre la déforestation. Il y a le travail des enfants aussi. Quand on prend le cas du cacao, le café cacao par exemple, et comme je disais, la traçabilité, les labels durables. Je ne sais pas trop pour ce qui est de la télécommunication. Je dirais plutôt que la RSE est devenue un levier de différenciation.
Tout à fait. Et aujourd'hui, par rapport à ce levier de différenciation, déjà, peut-on mesurer clairement l'impact réel des projets RSE sur les populations locales, au-delà même des rapports et des chiffres publiés par les entreprises?
Je dirais oui. On peut mesurer l'impact réel des projets RSE, mais pas dans les bureaux. Hein.
Tout à fait.
Parce que l'impact en Afrique, ici, se mesure plus sur le terrain.
Tout à fait.
Auprès des populations. C'est-à-dire en vérifiant ce qui a réellement changé. Est-ce qu'ils ont accès à l'eau, à la santé, à l'école, à l'éducation et tout? La RSE en Afrique, elle est crédible. C'est une RSE dont l'impact se voit. Elle se ressent et puis elle se confirme par la communauté elle-même, bien au-delà des chiffres publiés par les entreprises. Donc c'est ça la différenciation de la RSE en Afrique.
Tout à fait. Et aujourd'hui aussi, la RSE améliore-t-elle véritablement, selon vous, la relation entre entreprises et communautés, parce que vous venez de le souligner avec le terrain et tout, notamment dans les zones extractives ou minières, surtout?
La RSE, oui, réellement améliore la relation entre entreprises et communautés dans les zones extractives. Mais seulement lorsqu'elle est sincère et transparente. Et lorsqu'elle est construite avec surtout la population locale. Par exemple, le cas des mines dont vous prenez l'exemple, la RSE, ce n'est pas un outil de communication. C'est plus un outil de paix sociale et beaucoup de plaidoyer. Là où elle répond aux besoins essentiels, elle renforce la confiance. Mais là où elle reste superficielle, ça va aggraver les tensions.
Et aujourd'hui, par rapport à ces tensions, par rapport à cette politique aussi sur la RSE, les entreprises africaines aujourd'hui ont-elles réellement développé des modèles RSE propres au continent, adaptés aux réalités locales, comme vous venez de le souligner?
Les entreprises africaines ont développé, disons qu'elles ont développé leur propre modèle de RSE. C'est-à-dire, c'est une RSE communautaire, territoriale et profondément pragmatique.
Tout à fait.
Ça ne vient pas des bureaux, mais ça vient du terrain. C'est-à-dire, elle parle des besoins réels en eau, en éducation, en santé, en emploi. Et elle s'appuie sur des structures locales pour créer de la valeur et renforcer la cohésion. Donc, disons que c'est un modèle authentique africain à mi-chemin entre le traditionnalisme et l'innovation.
Et justement, une parenthèse pour revenir bien évidemment avec notre invitée, Madame Inès Semel. Nous allons suivre le point de l'actualité RSE avant de revenir tout de suite pour parler toujours de RSE, mais surtout la RSE en Afrique, les perspectives, l'adaptation, l'orientation, comme nous le faisons actuellement.
Bienvenue dans votre actualité RSE. Petites et grandes entreprises regardent aujourd'hui plus que jamais au-delà du profit. En Afrique, un tournant se confirme, le continent s'active pour structurer la RSE. L'Union africaine devrait bientôt lancer une taxonomie verte et sociale pour orienter les investissements responsables. Au Maroc, la troisième édition de l'événement RSE Now 2025, tenu à Tanger, a incarné cette dynamique. La RSE n'est plus qu'un simple gadget de communication, mais un levier de compétitivité, d'innovation et d'accès au marché. Du côté des entreprises africaines, les modèles d'engagement évoluent. On parle désormais d'aligner leurs activités avec les défis climatiques, les enjeux sociaux ou encore la gouvernance. Intégrer la durabilité, c'est devenu un gage de crédibilité. Sur la scène mondiale, malgré l'intérêt pour l'ESG, environnement, social, gouvernance, les signaux sont ambivalents. Certaines entreprises multiplient les rapports de durabilité, mais d'autres acteurs, notamment des gestionnaires de fonds en Europe, ralentissent les créations de fonds ESG préférés face à des doutes grandissants sur la qualité réelle des engagements. La RSE se densifie, s'institutionnalise, surtout en Afrique, mais la route reste encore longue.
De retour avec notre invitée, Madame Inès Semel. Alors, Madame Semel, vous parlez tout de suite, bien évidemment, de l'adaptation, mais aussi des entreprises africaines qui se sont développées et aussi ont essayé de développer des modèles RSE propres au continent. Quel rôle, d'ailleurs, jouent, selon vous, aussi les États dans les régulations et le contrôle des pratiques RSE en Afrique? Sont-ils suffisamment exigeants, à votre avis?
Je vais dire que l'État africain, on parle de l'État africain.
Hein. Tout à fait.
L'État africain joue un rôle important, mais pas encore légal dans la régularisation de la RSE. C'est-à-dire, ils orientent, ils encouragent, ils encadrent certains secteurs, notamment les mines, l'énergie, les finances, mais les exigences restent souvent limitées, faute de normes strictes, de moyens de contrôle et de pression réglementaire fortes. Bon, c'est pas vision. Et la croissance de la RSE en Afrique vient davantage des communautés, des bailleurs et des investisseurs internationaux que plutôt de la loi.
Donc aujourd'hui, donc à savoir bien évidemment cette orientation qui, selon vous également, par rapport au rôle de l'État, est à améliorer, mais aussi à approfondir. Comment, par rapport à ça et parallèlement, les multinationales opérant en Afrique harmonisent-elles leurs normes RSE entre les standards internationaux et les contextes locaux? Vous qui avez une visibilité en tant que personne résidente en Europe, mais également active au niveau de l'Afrique, comment voyez-vous cela?
Moi, je pense plutôt qu'elles gardent leurs engagements internationaux comme socle, mais elles adaptent leurs actions aux réalités africaines. Parce que quand elles viennent, elles sont vraiment aux soins des besoins sociaux, du dynamique communautaire et attendent des autorités et vulnérabilités environnementales. Donc, l'efficacité de leur RSE repose sur leur capacité à concilier rigueur globale et intelligence locale. Bah, c'est ce que je prédis.
Et aujourd'hui aussi, les initiatives RSE, comme vous venez de le dire aussi, dans une certaine mesure sur le plan international, favorisent-elles réellement l'emploi local, l'inclusion des jeunes et l'autonomisation, surtout des femmes qui jouent un rôle clé, bien évidemment, aujourd'hui dans tous les pays, que ce soit sur le plan communautaire, mais aussi sur le plan aussi actif que, bien évidemment, dans le cadre des RSE.
Elles devraient. Les initiatives RSE peuvent vraiment favoriser l'emploi local. Mmh. Elles peuvent favoriser l'inclusion des jeunes. Elles peuvent favoriser l'autonomisation des femmes. Mais seulement lorsqu'elles s'inscrivent dans une approche territoriale durable et participative. Mmh. Les résultats sont concrets dans les secteurs miniers agricoles, hein. Mais en revanche, lorsque la RSE se limite à des actions ponctuelles ou symboliques, ben, cet impact-là reste faible. Mmh. Sinon, en Afrique, la vraie RSE, c'est celle qui crée des compétences, qui crée des opportunités et du pouvoir économique pour les communautés.
En ce sens, cette RSE, d'ailleurs, peut-elle devenir, pour finir, un moteur de compétitivité plutôt pour les entreprises africaines sur les marchés internationaux?
Oui, je dirais oui, parce que la RSE peut être ou peut devenir un puissant moteur de compétitivité pour les entreprises africaines. En s'alignant sur les standards internationaux, elle améliore leurs accès au marché, elle renforce leur attractivité auprès des investisseurs et elle réduise le risque opérationnel, disons comme ça. Mais surtout, la RSE stimule l'innovation locale et favorise l'image de l'entreprise. Ces deux atouts essentiels pour se positionner sur les chaînes de valeur mondiale.
Une RSE en Afrique donc, qui peut transformer durablement les territoires pour le continent africain, mais également au-delà. Et pour en parler, nous étions avec Madame Inès Semen. Je rappelle qu'elle est chef d'entreprise EcoISIS et aussi experte en transition écologique et de la responsabilité sociétale en Afrique et en Europe. Merci encore à vous, Madame Semen, pour ces éclairages.
Merci plutôt à vous. Et je suis contente que vous m'ayez donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Et comme mot de fin, moi je pourrais dire comme ça, que
allez-y.
Si nous voulons que la transition écologique devienne une réalité en Afrique, nous devons la construire là où tout a commencé, c'est-à-dire dans les territoires avec les communautés et pour la population. C'est exactement la vision que je porte avec mon ONG, c'est Durable et Vert, c'est-à-dire une ONG qui serait ancrée dans le vécu des gens, une RSE qui écoute avant d'agir, une RSE qui ne promet pas mais qui transforme. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité collective, c'est-à-dire de montrer que la durabilité peut rythmer avec inclusion, opportunité et prospérité partagée. Et c'est ce à quoi je m'engage en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'actrice du changement plutôt que experte. Parce qu'au fond, la RSE, ce n'est pas seulement une stratégie, mais c'est une manière de regarder l'avenir et de décider de la baptiser autrement, mais surtout ensemble.
Et surtout ensemble également. Et nous étions ensemble pour donc écouter cet entretien avec Madame Inès Semen. Merci encore Madame Inès et merci aussi pour tout ce que vous faites aussi pour la RSE mais aussi pour le continent africain parce que l'Afrique, comme vous venez de le dire, c'est le début du commencement. Tout part de là et tout revient vers notre continent.
Merci.
Merci également à vous de cette confiance renouvelée. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro dans votre émission Planète Business. Au plaisir.